je peux pas vivre dans ce passé toxique. J'avance un pas à la fois puis j'essaie de pas faire trop d'erreurs. Je suis pas parfaite.
Je pense que j'ai écrit l'impuissance d'une mère. Là, tu peux presque rien faire.
Je l'aime, ma carrière, mais c'est pas ce qui nécessairement me rend heureuse ultimement.
Moi, je mène ma vie comme je l'entends. Ce que ça provoque autour de moi, c'est souvent des belles choses.
Sans filtre.
Ben oui, tous ces extraits sont des extraits tirés des entrevues sans fil qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vous encourage à les réécouter d'ailleurs. C'est un podcast qu'on est en train de monter. C'est très apprécié. Alors, allez voir sur notre site du 98.5 et des stations Cogeco en Outaouais, du 104.7, du 107.7 Estrie. Vous allez cliquer sur mon émission, Isabelle, puis vous pouvez accéder, bien sûr, à ces entrevues que vous pouvez réécouter quand vous voulez.
Hashtag no filter.
Exactement, Stéphane. Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Tu sais que je te reçois chaque fois que tu pars pour ton défi, pour dire aux gens, parce que tu le sais, les gens le savent, en fait, tu es porte-parole de la Société de recherche sur le cancer. Le cancer, c'est une cause que tu as décidé de vraiment de prendre à bout de bras pour plein de raisons, au moins trois. Ta maman, ton papa, ta sœur, tous décédés du cancer. Et chaque fois, tu fais un défi incroyable.
Ben, c'est une expérience extraordinaire. Je l'ai fait une première fois avec les chemins de Compostelle. Ouais. Déjà, ça, en soi, c'est quelque chose. Mais de le faire pour une belle cause comme ça, et de les rencontres que j'ai faites aussi sont fabuleuses. Là. Encore cette semaine, j'ai mangé avec une fille avec qui j'avais fait Compostelle dans le temps. On se revoit, on garde des liens, tout ça. Après ça, j'avais fait Cinque Terre en Italie. Alors, c'est toujours aussi de très beaux voyages avec des paysages incroyables. Mais de
et
le
là,
faire...
tu fais un trek au Portugal.
Là, je le fais, ouais, c'est au Portugal. Portugal, à Madère, et puis ben, c'est le temps. Si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent venir marcher là, dans différents groupes parce qu'il y a traversé du Sahara. Je les ai pris en note d'ailleurs, là. J'en ai plein de belles destinations.
Écoute, sincèrement, les inscriptions au programme d'expédition caritative sont maintenant ouvertes pour la prochaine saison 2021. Alors c'est randonnée au pays des Khmers au Cambodge,
oui.
Sur la piste des nomades du désert, traversée du Sahara, trek sur la côte Almafitaine en Italie, expédition dans les îles Lofoten en Norvège, trek à travers le GR20 en Corse, la Suisse, la France, l'Italie, grand tour du Mont-Blanc. C'est toi qui choisis ton spot?
Non, c'est pas moi qui choisis mon spot.
Il y a pire place, hein, quand même.
Ben oui. Mais moi, j'essaie d'éviter l'altitude, en tout cas, pour ma part, parce que ça me va pas du tout pour l'avoir
fait. Le Mont Blanc, quand même.
Ouais, mais ça, je le ferai pas, le Mont Blanc, moi, parce que je me suis rendu compte qu'en haut de 2500
mètres.
Toi,
tu vomis quand c'est vrai, t'as le mal de hauteur?
J'ai mal à la tête, je suis pas vivable, j'ai plus de fun. Le monde qui sont avec moi, ils ont pas de fun non plus. Je deviens. C'est là qu'on s'aperçoit que ça existe. C'est des phénomènes qui existent vraiment. Puis, j'ai pas le mal de mer. Par contre, le mal de hauteur, je l'ai vraiment. Là, on s'en va à Madère. Ça va être. J'ai demandé de la randonnée où il n'y avait pas trop d'altitude exactement. Mais
et un peu de
ça
vin.
Ça reste très, très physique. Ouais, il y a un petit peu de vin, mais sincèrement, tu rentres le soir, tu prends pas une tasse, là, tu sais, parce non, que le lendemain, tu reprends la marche, puis tu vas être en forme parce qu'on se lève tôt.
C'est comme Compostelle.
Ouais.
C'est le même principe. Vous marchez. L'idée, c'est de ramasser des fonds, bien sûr, pour la recherche sur le cancer.
Exactement.
C'est fou comme il y a des gens qui tombent au combat.
C'est fou, hein? On en connaît tous. Une personne sur deux va avoir un diagnostic. Un Canadien sur deux va avoir un diagnostic de cancer dans sa vie.
Mais ça, tu vois, on l'entend, cette stat, Stéphane. Puis quand ça ne nous touche pas, on l'a... Tu sais, c'est comme quelque chose d'irréel, mais tout le monde, de plus en plus... Écoute, la semaine dernière... Une amie a perdu sa meilleure amie, 35 ans, deux enfants, dont un bébé de 2 mois, 6 semaines, était partie.
Il y a des cancers fulgurants, le pancréas, entre autres, le cancer du poumon. Il y a d'autres cancers on a beaucoup évolué. Justement, la recherche a beaucoup aidé. Moi, quand j'ai marché Compostelle, il y avait une dame avec nous qui est extraordinaire, qui a malheureusement perdu son fils. Elle dit « Aujourd'hui, je ne le perdrai pas parce qu'ils ont trouvé depuis des solutions. » Puis on est fiers parce que c'est grâce à nous. Il y a 155 millions qu'on a ramassés depuis 20 ans, là, qu'on a donné à la recherche. C'est énormément de bidou.
Tu te demandes comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé le médicament.
Bien, il en trouve, mais il y a 200 cancers différents. Donc, il n'y a pas un médicament qui va marcher pour tous les cancers.
C'est sûr.
Fait qu'il y en a des plus virulents que d'autres. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance. Il rentrait à l'hôpital parce qu'il avait mal à l'épaule, puis on lui a dit qu'il restait 6 mois à vivre. Donc,
et c'était quoi comme cancer?
Lui, c'était le pancréas, puis il y avait des métastases partout dans le corps, mais ils n'avaient pas...
Mais c'est ça qui était peur, hein? Dernièrement, ouais. Je trouve que... Puis peut-être que c'est anecdotique, là, que ça n'a rien à voir avec les statistiques, mais autour de moi, j'ai des gens là, qui... ils ont juste une petite douleur ici depuis quelque temps, puis ils rentrent, puis c'est comme phase 4, terminale, il te reste 6 semaines.
Ouais.
T'as comme pas le temps de voir venir les choses. C'est comme si on, y a plus de mesure, tu sais, il n'y a plus de temps entre le moment où tu commences à pas te sentir bien, puis le moment où... ou tu as une chimio, ou tu es sur le bord de plus être là.
Oui, bien, ça dépend effectivement du cancer. Il y a des cancers qui sont vraiment très virulents comme ça, puis il y en a d'autres. Beaucoup de cancers se soignent maintenant, contrairement, tu sais, quand la Société de recherche sur le cancer a été fondée en 1945, les taux de succès étaient loin d'aujourd'hui. Ouais. 3 sur 4 en mouraient, là. Aujourd'hui, la plupart des gens vont réussir à s'en tirer assez bien. Mais il faut continuer à trouver des solutions, puis la recherche vraiment nous aide à faire ça.
Toi, tu as perdu ta mère,
ouais.
Berthe.
Berthe, elle, au contraire,
toi,
elle est là, elle est en phase terminale pendant 5 ans.
Ouais.
Et évidemment qu'on ne souhaite pas ça à personne, parce que c'est très long, c'est très dur sur la famille. Évidemment, quand quelqu'un attrape le cancer chez vous, tout le monde l'attrape un peu là, par la bande, parce qu'on souffre tous, on est tous dans le
bateau. Toi, tu avais 7 ans quand ta maman a pris.
Ouais, ouais, ouais.
Et moi, tu t'en souviens de cette époque-là?
C'est fou, hein? Ma mère est décédée, j'avais 12 ans, puis j'ai à peu près pas de souvenirs de ma mère. Puis j'y pense des fois, je me dis, mon gars, je mourrais aujourd'hui, mon gars peut-être qu'il se souviendrait pas trop de moi finalement. On a beaucoup plus de photos qu'avant. Je pense que j'ai 2 photos de ma mère quand on était gamin. Évidemment, ça nous aide avec tous les petits films qu'on fait, puis ça nous aide à se rappeler probablement, mais à l'époque, on n'avait rien. Et les souvenirs, c'est des fragments, là. C'est des petites images qui tiennent sur... sur une seconde, c'est un instantané, des petits moments. Je me souviens pas de sa voix, je me souviens pas de son odeur. Ça m'a complètement échappé parce qu'elle a passé les 5 dernières années de sa vie à l'hôpital ou dans des soins à la maison, mais elle était tellement fragile qu'on n'osait pas l'approcher. Il fallait porter un masque, il fallait porter des gants pour aller la voir, un bonnet. On était déguisés pratiquement. À part vraiment la dernière année qu'ils ont dit, bon ben là...
C'était quoi comme cancer?
Elle, c'était le colon. Puis mon père aussi, c'était le colon. Et ça, c'est traumatisant parce que c'est pas arrivé en même temps. Puis mon père en voulait. C'est drôle parce que ça crée une ambiance de merde entre nous à la maison parce que tout le monde est un peu fâché. T'es fâché contre la maladie. T'es là, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça arrive à ma femme? Pourquoi ça arrive à ma soeur? Puis fait que ça crée une espèce d'ambiance un peu malsaine à la maison. Et je me souviens, mon père en avait pratiquement pas voulu à ma mère, mais forcément, ça changeait sa vie. Et après ça, après qu'elle est décédée, lui a chopé le même cancer.
Combien de temps plus tard?
Ah, oh, mon Dieu! Lui, il a souffert de ça moins longtemps. Il a été pris plus à temps, parce que c'est toujours ça aussi. Surtout avec le cancer du côlon, on peut faire du dépistage. Moi, j'en fais... tous les 2 ans, c'est toujours agréable. Mais bon, faut le faire, tu sais. On n'a pas le choix. Lui, il l'a attrapé. Mon Dieu, mon père est décédé en 2003. Il a dû pogner ça en 98, ou je sais pas. Mais on avait réussi. Bon, il avait subi toute la patente, là, la colostomie, puis tout ce qui en découle. Puis bon, il a réussi à s'en tirer bien avec ça, mais après ça, il y a eu des complications, puis il est mort d'une complication. Il n'est pas mort du cancer comme tel.
Oui. Ta sœur?
Ma sœur, ça a débuté par le cancer du sein. Mm. Après ça, ça s'est généralisé. Mais le cancer du sein était sorti du trouble, si on peut dire.
En rémission?
En rémission complète avec son cancer du sein, puis elle a chopé un cancer du poumon. Et puis après ça, ben ça passait vite au cerveau, puis il était trop tard. Là. À un moment donné, elle n'a pas abandonné le combat parce que c'est plus un combat, c'est plus un combat loyal. Mm. Il aurait fallu qu'il l'opère pour le poumon à tous les 6 mois, puis au cerveau à tous les 6 mois pour la tenir en vie. Fait qu'à un moment donné, tu fais, bon, mais c'est beau, là. On va oublier ça. T'sais.
C'est difficile de parler de ça parce qu'on ne veut pas avoir du vocabulaire. C'est Joanne Fontaine qui me disait, faut pas avoir le vocabulaire de guerrier. T'sais, elle haïssait bien ça.
Ben
Joanne,
oui.
La comédienne, mon amie, qui est morte du cancer l'année dernière. Puis en même temps, même elle, des fois, elle s'oubliait et elle se disait la guerrière en crinoline. Fait que, pour elle, c'était quand même mal, même si elle n'aimait pas le mot, c'était quand même un combat pareil parce que tu veux pas, tu sais, je disais en début d'émission, puis je m'en suis voulu juste en le disant, mais qu'est-ce que, on est en direct, quand j'ai dit tomber au combat.
Ouais.
Même si en même temps, tu dis, ben non, faut pas dire ça, parce que c'est, tu sais, on veut pas parler comme ça. En même temps, je t'écoute, puis toi, tu dis ça très léger, je l'ai pogné, il l'a attrapé, c'est comme si c'était une bibitte qui passait au-dessus de notre tête, tu sais, une mouche.
Ouais.
Hein, moi, de pogner ça.
Moi, je suis un
c'est
peu...
ta distance par rapport au cancer qui te fait parler comme ça, ou c'est...
Je sais pas, moi, je... C'est ma grande naïveté, j'imagine, aussi, qui m'amène à dire que je l'aurai jamais, moi, parce que les odds font que je l'aurai pas. Je me dis, ma sœur, mon père, ma mère, moi, je vais être l'exception parce que tout le monde n'attrape pas la même cochonnerie dans la vie. Donc, mais heureusement que j'ai cette naïveté-là parce que sinon, j'angoisserais vraiment, je pense. T'sais. Il y en a d'autres avec ce lot-là, probablement qu'ils auraient des difficultés à passer à travers la vie sans y penser trop. Moi, j'y pense pas vraiment. Je fais attention.
Un peu quand même.
Ben, j'y pense un petit peu de plus en plus, je dirais, parce que j'ai un fils de 10 ans, t'as envie d'être là longtemps, t'as envie d'être en forme. Alors, j'ai jamais été dans les excès, mais j'ai évidemment, avec les métiers qu'on fait, on a fait la fête, on s'est amusé, on n'a pas toujours mangé vegan. Je le fais pas encore, mais j'essaie de faire beaucoup plus attention que j'ai pu faire à une autre époque.
Stéphane Rousseau est avec nous. On revient tout de suite après la pause. Entrevue sans filtre avec Stéphane Rousseau. Il y a un an, Stéphane, c'était le show de Rousseau.
Oui.
Qui prenait fin.
Qui prenait fin, ben oui, après deux ans. Deux demi-saisons.
Comment tu qualifies cette expérience?
J'ai adoré ça. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que vraiment, je prenais mon envol, j'avais du fun, puis l'équipe était vraiment bien formée, puis ça s'est arrêté donc un peu prématurément pour nous tous. Fait qu'on était tous, OK, il va falloir faire autre chose. Il va falloir se trouver un autre projet pour travailler ensemble parce que après coup...
Vous l'avez pas eu facile, hein? Il s'est dit tellement d'affaires. Il a essayé des co-animatrices, vous avez essayé différentes choses.
Ça a parti croche, disons.
Genre, comment ça a parti?
Ben, ça a parti croche parce que on n'avait pas beaucoup de temps pour préparer ça, tu sais. Donc, c'est dur après. Surtout aujourd'hui, je pense, on n'a plus de temps comme on en a déjà eu. Donc,
toi, est-ce que tu te sentais à l'aise, à ta place?
Pas les trois premières semaines. Ouais. Mais après ça, oui. Vraiment, de plus en plus. Puis je trouvais que vraiment, deuxième saison, là, c'était une autre game.
Est-ce qu'on te laissait carte blanche, vraiment? Est-ce que si on t'avait laissé plus carte blanche, ça aurait été meilleur, tu penses?
Je crois pas. C'est pas là que ça buguait tant que ça, je pense.
C'est où que ça buguait?
Quand tu pars un nouveau show avec peu de temps...
Peu de moyens, t'allais dire?
Moyens, disons. Tu sais, c'est rare qu'on a tous les moyens qu'on aimerait avoir. Mais on n'était pas à plaindre non plus. Mais c'était du temps surtout. C'était du temps. Moi, je suis un slow learner. Normalement, je m'en vais toujours en améliorant mon sort, que ce soit avec n'importe quoi, que ce soit de la conduite automobile. Je suis vraiment nul au début, puis tranquillement, je m'améliore toujours un petit peu plus.
C'était ton idée ou c'est quelqu'un qui a dit « Hey, tiens, on va prendre Stéphane Rousseau pour l'animer? »
Non, c'était pas mon idée, par contre.
Mais ça reste
que c'est un fantasme d'animer un talk show pour, je pense, à peu près tous les humoristes québécois. D'animer son late night, c'est vraiment excitant. Alors, c'est ce que j'avais envie de réussir à faire. Et puis, évidemment...
Mais toi, tu le mets dans la colonne. Mettons qu'on a deux colonnes dans la vie, réussite, échec. Tu le mets dans quelle colonne?
J'ai un pied des deux côtés,
non,
mais...
Non, tu peux pas. Il y a deux colonnes, non.
Je le mettrais dans les échecs, malheureusement. Mais je préfère... Il y a autant de positifs que de négatifs. Personnellement, il y a beaucoup de positifs là-dedans parce que, sincèrement, je revois encore cette équipe-là puis on a envie de travailler ensemble. Donc, on n'était pas dans le champ. Là, quand les caméramans te disent « On va le faire pour rien, on le fait sur le web, on le fait gratos. »
On était
rendu là.
Un autre projet, alors, qui s'en vient? Mais t'as un projet d'écriture qui s'en vient.
J'ai un projet... Ben, j'écris en ce moment. Ouais. Ça se
t'écris un show ou t'écris un... T'écris...
Ça a commencé par... au départ, c'était un peu mes mémoires.
Tes mémoires?
Mes mémoires, rien de moins. Non, mais c'était... En fait, c'est... Je dis mes mémoires parce que c'est mon histoire... c'est l'histoire de mon enfance, en fait, que j'avais commencé...
C'est bon, ça.
À écrire.
Et Morancy, il roule là-dessus. Là.
Ouais, c'est vrai. Ben, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un peu abandonné.
Je
trouve qu'il y en a trop qui racontent leur vie dans des bouquins. Alors, j'ai mis ça de côté un petit peu. Je laisse redescendre ça un petit peu, prendre du recul là-dessus. Mais ça m'inspire autre chose entre-temps. Donc, je continue à écrire.
Qu'est-ce que tu dirais sur ton enfance, en gros?
Ben, j'ai une enfance spectaculaire, très cinématographique. Une enfance hors du commun, avec un petit mélange humblement, malheureusement, entre Léolo et je sais pas quel autre film ou livre je pourrais te sortir.
Le Matou?
Un petit peu mettre tout, mais et je sais pas trop. Mais c'est une histoire fascinante parce que bon. Ancrée dans la maladie quand même, mais hop, Isabelle nous a quittés, mais tout va bien, je suis toujours là. Isabelle est partie tousser de l'autre côté, mais j'ai pris les rênes de cette émission et je savais que j'animerais une émission, ça prendrait pas trop de temps. Et voilà, je suis de retour au 98.5 Montréal. J'espère que vous passez une belle journée, que tout se passe bien pour vous dans la circulation en ce moment. Ah, c'est pas facile, les rues de Montréal, ça, je vous le dis.
Écoute, on est tellement en direct.
Hey, on était-tu bon, là?
On va tellement à la pause. My en fait, God. On va à demain.
Mais
merci beaucoup,
dire.
Stéphane.
C'est vrai, c'est terminé.
Hey, fini le show.
Ben, à demain, tout le monde. Merci, Isabelle. T'as été une invitée extraordinaire.